Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les filles sont-elles forcément des princesses juchées sur des licornes et les garçons des chevaliers en armure? Les stéréotypes de genre pourraient faire leur retour dans le débat public dès le mois prochain. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, envisage de relancer la lutte contre les inégalités filles-garçons à l'école. Objectif, prévenir les violences sexistes et sexuelles. Mais le sujet est très sensible. Il y a quelques années, la boîte de Pandore avait déjà été ouverte avec l'ABCD de l'égalité, projet qui avait échoué, Louise Salé, après avoir suscité de vives tensions.
Oui, c'est une expérimentation menée en 2013-2014 à l'initiative des ministres de l'Éducation Vincent Peillon puis Benoît Hamon et de la ministre des Droits des Femmes Najat Vallaud-Belkacem. Des textes, des chansons, des documents ont été diffusés auprès de profs en classe de maternelle et élémentaire dans 600 établissements. L'objectif revendiqué, combattre dans toutes les disciplines les idées reçues telles que « oui, un garçon a le droit de jouer à la poupée » ou bien « oui, une fille peut taper dans un ballon ». Pour les profs de PS, par exemple, des fiches indiquaient comment ne pas laisser les filles où les garçons s'auto-enfermaient dans certaines pratiques sportives. Et selon leur concepteur, ces ABCD visaient à détruire les stéréotypes le plus tôt possible pour plus de mixité ensuite au moment des choix d'orientation. D'après l'inspection générale, les enseignants ont apprécié l'expérience malgré quelques défauts. Les documents étaient très variés, désorganisés, il manquait d'unité. Et autre point faible, pointé par l'inspection dans son rapport, la communication. Le mot « genre » dans « lutte contre les stéréotypes de genre » a été ainsi très mal perçu. Le texte mentionne qu'il aurait fallu privilégier l'expression « lutte contre les inégalités filles-garçons ».
Louise Salé, la communication et l'utilisation du mot « genre », voilà ce qui avait rendu ce sujet hautement inflammable. Il faut dire qu'il touche au code, au fondement même de la société, ce qui le rend très clivant, Victor Chabert.
Oui, à l'époque, la droite et une partie de la gauche universaliste avaient dénoncé ces ABCD de l'égalité. Ils y voyaient une tentative d'indifférenciation entre les garçons et les filles, ou encore l'apprentissage aux enfants que l'identité sexuelle est une construction sociale, niant toute réalité biologique. L'arrivée de la théorie du genre à l'école, sous pression notamment de la Manif pour tous, le gouvernement Valls a enterré alors la campagne. Interrogé à son arrivée rue de Grenelle en 2017, Jean-Michel Blanquer déclaré que tel que ces ABCD étaient faits, ils n'étaient pas bons et les avaient même jugés inutiles. Changement de ligne donc aujourd'hui avec le controversé Pap Ndiaye. En souhaitant relancer des concertations pour lutter contre les stéréotypes de genre, le ministre de l'Éducation nationale reprend une sémantique issue de la gauche woke et des associations LGBT, tout en rouvrant un dossier explosif que ses détracteurs ne manqueront pas de saisir.
Victor Chabert.
Ah, qu'on ne vienne pas le chercher sur Fessenheim, ça c'est Emmanuel Macron, lundi, face à la presse, refusant de porter le chapeau de la crise qui menace notre système électrique cet hiver. Je vous propose de le réécouter.
C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière en expliquant qu'on allait décaler de 10 ans les objectifs qui étaient initialement prévus. Donc chacun à sa place doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises.
Il a pris ses responsabilités, dit-il. Sur Europe 1, ça nous a rappelé ce discours à Belfort en février dernier. Emmanuel Macron annonçait la renaissance du nucléaire français avec la construction de 6 nouveaux réacteurs et le prolongement de la durée de vie des réacteurs existants au-delà de 50 ans. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Journaliste au service économie d'Europe 1 en direct avec nous. Baptiste, vous avez enquêté pour Europe 1 7 mois après ces annonces et alors que la France est percutée de plein fouet aujourd'hui par la crise énergétique et la flambée des prix, où en sommes-nous de ces chantiers?
Eh bien, rien n'a commencé. Enfin, quasiment rien. Hier, il y a eu du nouveau. La Commission nationale du débat public a accepté d'ouvrir un débat public. Il aura lieu du mois d'octobre au mois de février 2023. 4 mois de débat public, c'est la condition préalable en France à chaque grand investissement public. Mais pour le reste, rien n'a changé, malgré les affirmations du président. La France suit toujours la feuille de route d'il y a 2 ans, de 2020, celle qui prévoit la fermeture de 14 réacteurs, dont ceux de Fessenheim. Pour changer de paradigme, il faudra attendre le printemps 2023 et une nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie.
Donc il va falloir, Baptiste, attendre printemps 2023, comme vous venez de le dire, pour que débute la construction de nouveaux réacteurs?
Eh bien non, ce sera encore plus tard. Après le débat public, il faudra déposer des demandes d'autorisation, une quinzaine en général. Les démarches administratives, c'est le premier frein. Pour Valérie Faudon de la Société française de l'énergie nucléaire, il faut simplifier ces procédures.
C'est beaucoup de travail et souvent ce sont des procédures n'ont pas été faites pour centrales nucléaires, surtout qu'on n'a pas instruit de dossier depuis très longtemps.
Le deuxième frein, et il est de taille, c'est le financement. Les 6 nouveaux EPR, c'est un budget de 50 milliards d'euros. Or, EDF l'a dit, impossible pour l'entreprise de financer seule. L'État planche donc sur un plan de financement. Bref, vous voyez bien que ces nouveaux réacteurs, ils ne sont pas pour demain. De nombreux experts ne voient pas le premier chantier débuter avant 2027.
Merci beaucoup, l'enquête de Baptiste Morin pour Europe 1.
On reste au chapitre économique. Face à l'inflation, la BCE, la Banque Centrale Européenne, s'apprête à relever les taux d'intérêt aujourd'hui.
Une augmentation qui pourrait atteindre 0,75%, deuxième hausse depuis juillet dernier, qui aura des conséquences sur le coût des crédits immobiliers, le financement des entreprises et le remboursement de la dette publique.
Il est 8h07 sur Europe 1, c'est le jour J à Marcoussis, dans l'Essonne, dans un peu plus d'une heure. Emmanuel Macron va inaugurer le Conseil National de la Refondation.
Un rendez-vous qui ne manque pas d'ambition, hein, mêler élus et société civile pour réfléchir aux grands enjeux du moment. Égalité des chances, climat, indépendance et souveraineté française. Et Emmanuel Macron l'a dit hier, le défi de l'accès aux soins. Mais au-delà des sujets abordés, la question ce matin, c'est surtout qui participera à ce CNR boycotté par l'opposition. À droite comme à gauche, on dénonce un machin qui veut contourner le Parlement. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Vous êtes à Marcoussis, où vous allez suivre ce Conseil National de la Refondation pour Europe 1. Je le disais, un CNR qui fait un peu grise mine, une cinquantaine de personnes attendues, mais pas de tête d'affiche, hein, Jacques.
Oui, la liste des participants fait pâle figure. 53 personnes, dont 10 ministres. Aucun leader des partis d'opposition ne sera là. Seuls les 3 partis de la majorité présidentielle seront représentés. La République En Marche, le Modem et Horizon. Horizon qui envoie ici à Marcoussis la maire d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chomeil, Édouard Philippe, ayant privilégié un déplacement au Québec. Il faut dire que la classe politique est loin d'être convaincue par cette invention d'Emmanuel Macron, critiquée de toutes parts. Un gadget pour le Rassemblement National, un bazar pour les insoumis. Alors comme s'il y avait encore besoin d'en dessiner les contours, le chef de l'État s'est une nouvelle fois employé hier à préciser de quoi il en relevait.
Ce Conseil national de la Refondation va nous permettre d'engager un dialogue constructif, de définir des objectifs partagés, de co-construire les politiques publiques et de se coordonner dans l'action. Nous devons aujourd'hui inventer quelque chose de nouveau, une manière nouvelle de débattre, pas une nouvelle institution, mais la méthode pour bâtir ensemble et construire ensemble.
Emmanuel Macron, qui a fini par convaincre les 8 associations d'élus de venir, 5 thèmes seront au cœur des débats, l'éducation, la santé, le plein emploi, le grand âge et la transition écologique, dans un dialogue interactif, franc et sans filtre, promettons du côté de l'Élysée. Ce sera surtout sans micro ni caméra, car cette première réunion, initialement censée être transparente, se déroulera à huis clos.
Jacques Serret, depuis Marcoussis dans l'Essonne pour Europe 1. Dimitri, savez-vous ce qu'est un iguanodon ?
Ah ben c'est un reptile, non ?
Je donne un petit indice.
Voilà.
Bingo. Un herbivore qui vivait il y a 145 millions d'années. L'un d'entre eux a été retrouvé aux États-Unis dans un état de conservation exceptionnel. Son petit nom, c'est Zéphyr. Oh. Il sera mis en vente aux enchères à Drouot à Paris le 20 octobre prochain. Et hier, il a été présenté au public découverte. Marie Jiquel.
Cela ne s'invente pas. C'est près d'une ville aux États-Unis nommée Dinosaure que le fossile Zéphyr a revu la lumière du jour. Alexandre Jiquel, commissaire priseur.
Il va être de plus en plus compliqué de trouver des grands spécimens. Donc aujourd'hui, on doit se concentrer sur toujours sur cette matière, tout en gardant l'espoir de trouver un tyrannosaure.
Debout sur ses pattes arrière, le squelette de 3 mètres de long semble prêt à bondir.
On regarde si les gamins, ils ont peur. C'est un grand test pour voir si on a bien choisi la position.
Jacopo Briano est expert en paléontologie. Armé de patience, il monte et démonte les os de Zéphyr.
Vous n'êtes jamais énervé à monter le dinosaure ?
Oui, je m'énerve toujours. C'est un cauchemar. Je casse toujours quelque chose. Les dinosaures, ils se retrouvent dans des centaines de morceaux. Alors là, c'est une gigantesque puzzle.
Il faut enlever la poussière.
Ça, c'est la chose la plus difficile.
Estimé à 500 000 euros, il reposera sans doute dans un luxueux salon où il pourra continuer à faire de vieux os.
Une bonne idée, un dinosaure dans un salon. Marie Jiquel.
Jolie, jolie chute. Merci Fanny Marceau. Dans un instant, sur Europe 1, restez avec nous. Bernard Accoyer, président de l'association Patrimoine Nucléaire Climat, je mets les mots dans le bon ordre, est l'invité de Sonia Mabrouk.